écouter, télécharger et partager toutes les émissions du OFF sur www.osmose-radio.fr.
Osmose Radio.
Osmose.
La web radio du OFF.
Soyez les bienvenus sur Osmose Radio, chers amis. C'est Brassens, je crois, qui chantait « Il suffit de passer le pont ». Et il ne savait pas, le bougre, à quel point c'était pertinent à Avignon au mois de juillet, puisque, comme chaque année, depuis 25 ans, on retrouve dans le Gard, hein, de l'autre côté, dans le département limitrophe à la fois et ennemi, enfin, pour ceux qui aiment conduire de façon un petit peu imprudente, eh bien, dans le département d'à côté, dans le Gard, du côté de Villeneuve, de l'autre côté du Rhône, sur l'autre berge du fleuve, eh bien on retrouve le festival Villeneuve en Seine qui en quelque sorte partage un petit peu l'événement avec le festival d'Avignon chaque année. Et cette année, je retrouve le directeur Brice Alberne. Bonjour.
Et bonjour, bonjour à tous.
Ah, on vous entend assez mal dans le micro, bonjour, je crois qu'on va vous le monter un peu.
Et bonjour, bonjour à tous.
Voilà, et vous l'avez répété plusieurs fois, c'est dire si vous êtes heureux d'accueillir du public en cette édition 2021 du festival Villeneuve en Seine, disais-je, qui est un petit peu un contrepoint au festival d'Avignon, et un heureux contrepoint d'ailleurs qui propose plein d'alternatives au festival de théâtre tel qu'on le connaît à Avignon. On va y revenir un petit peu, Brice. Alors, cette année, la 25e édition, disais-je, dans un contexte qui, comme pour beaucoup d'autres festivals, pour beaucoup d'autres compagnies, pour beaucoup d'autres lieux de spectacle en règle générale, et dans un contexte un peu particulier puisqu'il y a eu une annulation l'an dernier.
Oui, tout à fait. On a été victime, comme tout le monde, de l'annulation du Festival d'Avignon et de tous les autres festivals qu'on a eu en France. Enfin, voilà, on a été aussi victime de la situation, mais on a rebondi un petit peu parce qu'on a quand même créé l'événement en proposant des petites formes sous casque audio avec des balades dans la ville, etc. Les échappées belles, ça s'appelait. Mm-hmm. Et donc, on a essayé d'être présent à notre manière.
Donc, ben, on va se lancer dans l'inconnu, nous aussi, chers amis, en explorant un petit peu votre programmation. Alors, qui dit chapiteau dit cirque, et le cirque a la part belle dans cette programmation avec différents spectacles. Je pense notamment à Oraison par la compagnie Rasposo.
Ouais.
C'est un cirque un petit peu mélancolique.
Alors, le cirque Rasposo, c'est un cirque traditionnel. C'est Marie Moliens, qui est la directrice artistique de ce cirque, qui se transmet d'ailleurs de mère en fille. J'aime à dire qu'elle est au cirque contemporain dans une écriture traditionnelle, ce que Baudelaire est à la poésie. C'est-à-dire qu'elle va aller chercher dans le clair-obscur, dans le spleen, elle va aller chercher l'éclat du diamant, elle va aller chercher la lueur, et elle met en perspective des images qui ont une force d'évocation poétique vraiment très très belle, très très forte. C'est, quand on dit chapiteau, effectivement on entend cirque, mais voilà, typiquement le travail des Rasposo, même s'il s'applique sur une corporalité, des agrès, des choses qui sont dans le cirque, c'est d'abord une écriture théâtrale. Marie Moliens, elle a, dans son écriture, elle explore aussi des thématiques du monde d'aujourd'hui, la rupture, alors au sens civilisationnel, etc., toutes les préoccupations voilà, qui nous occupent. Et là, par exemple, elle vient superposer, comment dirais-je, la fureur, l'énergie de notre société moderne, de l'entertainment, de l'image, de l'individualisme, etc. etc. Et elle vient proposer sous le chapiteau une sorte de refuge poétique où on va retrouver les figures du cirque traditionnel, le lanceur de couteaux, le clown, la file de feriste, etc. Et elle crée dans son cirque un écrin de repos, un écrin de poésie, et c'est un petit peu comme si on ouvrait la malle de l'enfance qui est dans le grenier, vous voyez, etc. Ouais, c'est un très 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 beau spectacle avec une force esthétique, parce que c'est ça aussi le travail de Rasposo et de Marie Moliens, c'est d'amener des images qui sont très très contemporaine, très très forte, très très belle, dans un registre de cirque qui lui est traditionnel, au sens du 19e siècle. Hein,
et dont l'image nous est codifiée dans nos esprits en quelque
sorte.
Voilà,
tout à fait, tout à fait.
Eh bien, une autre compagnie qui s'intéresse aussi à cet univers du cirque, c'est l'Association des Clous avec le spectacle Mort aux Rats.
Alors ouais, alors c'est compliqué parce que Morora c'est pas du cirque. On pourrait le penser comme ça parce que on voit
le jeu de mots déjà ressemble un petit peu à un jeu de mots de
oui,
Locust.
Oui, tout à fait.
Quand
tout
il fait
à
ah là là
oui,
les
oui,
enfants.
Oui,
voilà.
Oui, tout à fait.
Morora en anglais donc et Morora ça signifie ça ouais. Sonne de manière tout à fait différente pour nous autres Français.
Ouais, vous avez tout à fait raison. Disons que c'est une écriture de clown mais de clown de théâtre. On est vraiment au cœur d'un projet théâtral. Avec une performance d'actrice qui est proprement phénoménale, franchement, que je trouve assez rare dans son écriture, dans l'écriture du spectacle, très prononcée sur une écriture très théâtrale, pardon. Donc, de quoi s'agit-il ? C'est l'histoire d'une jeune femme. Alors, c'est une grande fille dégingandée qui a sur talons aiguilles, etc. Et puis qui est aussi une boxeuse. Je veux dire, elle porte un sweat à capuche, elle peut avoir des gants de boxe,
elle
etc.
Elle ne s'en laisse pas compter.
Ouais, elles sont exactement. Et disons que, alors bon, c'est une galérienne du quotidien. C'est ça, c'est un portrait de femme qui est absolument phénoménal. Elle galère avec sa bagnole, elle galère avec son appart, elle galère avec ses courses, etc., etc. Mais la fille, elle lâche rien. C'est-à-dire que elle va chercher à l'intérieur d'elle, de la résilience au sens où elle a besoin d'amener de la vivacité, de la beauté, de la joie, quelque chose de comme ça très très positif parce qu'au-dessus d'elle, elle a un combat. Je ne vais pas vous le dévoiler ici, ce serait un petit peu
trop.
Dommage, mais il y a vraiment, je ne sais pas comment on appelle ça dans les séries, une sorte de cliffhanger, truc de rupture, quoi. Bref, où voilà, elle a un vrai combat à mener. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film La vie est belle de Nanni Moretti, où c'est un gars qui est avec son gamin.
C'était pas Nanni Moretti, c'était ce clown italien, mais on ne retrouvera pas son nom.
Bon, bref, c'est pas grave. Bref, il est en camp de concentration, c'est assez glauque avec son gamin, etc.
Benigni, Roberto Benigni.
Bien vu, Roberto Benigni.
Festival de Cannes
exactement,
98.
Voilà. Exactement, merci, grazie. Bon, bref. Et donc, le gars, il est en camp de concentration, c'est assez glauque. Et pourtant, avec son gamin, il va tout faire pour lui proposer de rester dans l'enfance, dans la naïveté, dans la joie, etc. C'est vraiment le registre de ce spectacle, qui est un spectacle coup de poing. Il y a une adresse au public qui est vraiment très, très directe et on passe du rire aux larmes, etc. C'est une vraie performance d'acteur, Morora.
Et toujours dans le thème du cirque, mais qui le recoupe avec le thème du deuil, il s'agit d'une pièce qui a un nom un petit peu passe-partout, qui s'appelle L'Enquête, par la compagnie Lonely Circus.
Ouais, tout à fait. Alors, là, c'est pareil. Je pense aujourd'hui que les écritures théâtrales, elles sont multiples. On ne peut pas les ranger sous des catégories comme ça, très, très déterminées. Et typiquement, ce spectacle, il est indisciplinaire, il n'a pas de discipline. Je serais incapable de vous dire si c'est du cirque, du théâtre, de la performance ou etc. Alors de quoi s'agit-il ? On rentre dans une sorte de chapiteau, de tente, voilà, qui est en papier, sur lequel il y a plein de dessins, d'écritures, etc. Mm-hmm. On s'installe sur deux gradins qui se font face à face, bifrontaux, et le spectacle se regarde sur des miroirs qui sont au plafond, parce qu'on a une table centrale. Alors le propos, de quoi s'agit-il ? C'est Sébastien, qui est un artiste, et qui, on lui transmet, c'est une veuve, une dame, son mari, il vient de mourir, etc. Et elle transmet à Sébastien une valise, dans lequel il y a toute la vie de son mari, et elle lui dit, ben voilà, faites-en quelque chose. Et lui, il hérite de ce truc-là, il va ouvrir cette valise, et dedans, il y a, c'est un spectacle sur la trace, en fait, sur la trace qu'on laisse, etc. Et ça va l'amener à faire une enquête sur la vie de cet homme, mais ça va aussi répondre, lui, à son propre parcours. Et c'est un spectacle qui est super intéressant, que je trouve extrêmement novateur, parce que dans son écriture, qui est à la fois, il y a c'est corporel, il y a du théâtre, il y a du texte, il y a de la vidéo, il y a du dessin, il y a de la littérature, voilà, ça vient raconter quelque chose de manière totalement protéiforme et indisciplinaire. C'est un spectacle qui est vraiment très très intéressant, L'Enquête.
Et donc ça parle un petit peu du deuil, mais ce n'est pas forcément triste pour autant. Par contre, un spectacle qui, lui, est un petit peu plus presque inquiétant, je dis ça du point de vue du public, c'est un autre spectacle qui aborde les rites de deuil par la compagnie Les Trois Points de Suspension, ça s'appelle Hibou. Il y a même question parfois d'enterrer quelqu'un du public.
Ouais, mais c'est absolument, ce spectacle est absolument génial. Alors d'abord, Les Trois Points de Suspension, il faut le dire, dans le monde, dans l'univers du théâtre de rue, c'est une des compagnies, c'est un peu les intellos de la bande, hein, il faut le dire.
D'accord.
C'est un spectacle qui traite effectivement du deuil. mais qui va chercher aujourd'hui les rites collectifs. On le voit, sont de plus en plus difficiles à mettre en œuvre. On est dans une société de la modernité où tout va vite, etc., et de l'individualisme, parce que je le disais tout à l'heure, on ne voit plus nos vieux, on ne voit plus nos cochons, on ne voit plus nos morts, etc., alors qu'à l'époque, ça faisait partie de la vie. Et donc, il propose de rejoindre le rite théâtral et le rite funéraire et d'en faire comme ça, de revivifier en fin de compte la question du rite collectif. Alors, la question, elle est simple, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos morts aujourd'hui ? Par exemple, dans nos téléphones portables, est-ce qu'on enlève notre mort tout de suite ? Est-ce qu'on enlève on le garde pendant 10 ans ? On attend que le téléphone portable il tombe en panne ? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que la veillée funèbre ? Je veux dire, plus jamais personne ne fait véritablement de veillée funèbre. Or, la civilisation humaine, elle a fait des veillées funèbres. Alors, c'est quoi les dernières volontés d'un mort ? Bob, je te laisse ma guitare, mais tu la files pas à Joseph parce qu'il va en faire n'importe quoi. Juliette, j'ai laissé des disques, passe, on va écouter un disque ensemble. Voilà, c'est quoi aujourd'hui les rituels ? Alors, c'est un spectacle extrêmement bienveillant. Là aussi, il y a des performances d'acteurs parce qu'on va faire du spiritisme, on va convoquer Victor Hugo, on va convoquer Thomas Edison, qui est l'inventeur de l'ampoule électrique. Et à l'époque, on pensait que l'électricité pouvait nous conduire à dialoguer avec nos morts, etc. Donc, on va faire des séances de spiritisme.
Voire à l'air animé avec Frankenstein, notamment.
Oui, tout à fait, exactement. Et puis, il y a des performances musicales parce que c'est un spectacle là aussi protéiforme, théâtre, musique. Ça commence. Alors, quand je vous disais, c'est les intellos de la bande, c'est-à-dire qu'ils ont fait un véritable travail de recherche avec des anthropologues, avec des psychiatres, avec des philosophes, avec le directeur de la morgue de Paris. Il y a même un des comédiens qui a passé son diplôme de
T'es un topracteur ? Non ? De maître de cérémonie voilà, en milieu funéraire, d'accord.
Voilà, c'est ça. Et donc, ça commence un petit peu, le public est dans un gradin circulaire, et ça commence un petit peu sur une conférence où on a un conseil gratuit pour se remettre à jour sur qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire, etc. Et puis, après, je ne vais pas tout raconter, mais ça part en délire, et c'est un spectacle absolument génial, intelligent, bienveillant, et qui est une très très belle performance théâtrale.
Un mort célèbre de l'histoire du théâtre aussi, bah c'est Hector, le frère d'Antigone, ou le mari d'Antigone, je ne sais plus, dans la mythologie de la guerre de Troie, qui a souvent été abordée au théâtre depuis l'époque antique. Et ça revient notamment, puisque ce thème d'Antigone a été adapté par la compagnie
Adesso
et Sempre, dans une pièce en deux temps, en fait, plutôt qu'en deux actes. Antigone 1 et 2, et Antigone, la faille, dans un deuxième temps. Alors, expliquez-nous un petit peu cette démarche théâtrale.
Alors, c'est absolument génial parce que c'est une série théâtrale, exactement comme on a une série télévisée. D'accord ? Et l'idée, c'est qu'ils se sont inspirés de l'écriture d'Antigone, mais ça a été réécrit par une auteure, Marie-Claude Verdier, une auteure canadienne, pour le recontextualiser aujourd'hui dans notre univers, on va dire, dans notre modernité. Et donc, c'est un spectacle très intéressant parce que c'est un spectacle sous casque. Le public a des casques, les comédiens jouent au milieu du public. En plus, ça va se passer dans un cadre absolument génial qui est un cloître de la collégiale à la ville. Donc un lieu très très chargé patrimonialement et on écoute, on regarde le spectacle aussi au travers du casque. Et l'intelligence de Julien Bouffier, c'est d'avoir marié cette question théâtrale, de reprise du drame antique, on est vraiment au cœur d'un objet théâtral, avec un univers sonore qui est vraiment, qui vient non pas habiller, mais qui vient nourrir la dramaturgie. On retrouve, comme dans une série, Previously in Antigone 1, ce genre de truc.
Tout ça nous est susurré au creux de l'oreille dans le casque, justement.
Exactement. On va avoir de la musique de Call of Duty, on va pouvoir retrouver Stranger Things.
Des codes très contemporains qui nous viennent de la série télé, du jeu vidéo, tout ça, quoi.
Exactement. C'est vraiment le mariage de ces deux univers, d'une culture populaire plutôt jeune, moderne, etc., avec la tragédie antique. Et on suit comme ça. Alors, l'histoire, elle est simple. C'est Régine, la reine, elle a confiné sa population à l'intérieur de la cité. Derrière les murs, on ne sait pas ce qu'il y a. Est-ce que ce sont des barbares ? Est-ce que ce sont des migrants ? Est-ce que c'est une maladie ? Etc. Et puis, elle a un fils, Henri, qui s'appelle Endis, qui est un jeune adulte. Et lui, il fait du parcours, il fait du graphe, il vit sa vie de jeune, etc. Et avec sa cousine, Alison, ils sont sur les toits. Donc, c'est l'état d'urgence, il y a l'armée partout, etc., etc. Et eux, ils vont voir ce qui se passe derrière le mur. Manque de bol, Andy, pourchassé par l'armée, va tomber. Et c'est Alison qui est la nièce de la reine qui maintenant est promise à avoir le pouvoir. Et là, on va avoir un fight entre Alison qui est l'adolescence, la liberté, le besoin de vérité, etc. Et Régine qui est l'autorité, la morale, l'ordre, etc. Et on suit ça vraiment comme une série de télé, quoi. C'est assez impressionnant et c'est très, très pertinent comme travail théâtral.
Et votre collègue Cyrielle me disait tout à l'heure que la pièce a été écrite largement avant le Covid et le confinement, mais qu'en fait elle résonne d'autant mieux à nos oreilles. Depuis le confinement, on a tous été un petit peu assiégés par un vilain virus en quelque sorte.
Totalement. Juste pour vous dire, parce que je ne sais pas si j'en profite, vous dire que le 10 juillet,
demain,
on fait un Twitch, un live Twitch. Parce que c'est un travail au long cours en fait, ce travail-là. On va travailler toute l'année prochaine avec plein d'ados d'Avignon, de l'Aglo, etc. sur pour créer en fait l'épisode 3 de End is Gone.
Ah d'accord.
End is Gone 3. Et du coup, l'idée c'est par l'intermédiaire de ce Twitch quoi, d'inviter tous les auditeurs ou en tout cas tous les gens qui sont dans le coin à comprendre qu'est-ce que c'est que cet objet théâtral protéiforme et voire même aussi à y participer.
Eh bien, on mettra le lien, bien entendu, sur le Facebook d'Osmose Radio.
Cool.
On parlait d'Antigone, mais un autre grand classique du théâtre, c'est Shakespeare, bien entendu, qui s'invite dans cette pièce au nom un petit peu étrange, Véro Première, reine d'Angleterre, par la compagnie 26 000 couverts.
Ouais, alors les 26 000 couverts dans le théâtre de rue, c'est un peu des légendes. Ils sont déjà venus dans le cadre du festival trois fois, je pense, en 20 ans. Moi, on m'arrête dans la rue et on me dit « Hey, Brice, quand est-ce qu'ils reviennent les 26 000 couverts, parce que la dernière fois c'était génial.
Parce que ce sont des habitués du festival d'Aurillac notamment, qui est le grand festival de théâtre de rue en France.
Exactement. Et donc du coup là on est vraiment on est sur un registre totalement burlesque, décalé, du troisième degré, du nonsense un petit peu à l'anglaise, ça part dans tous les sens. Il y a des portes qui claquent, beaucoup de d'humour de répétition, etc., etc. Et alors l'histoire elle est complètement, excusez-moi, mais alors ça part des drames en fait, à l'époque, au 19e siècle, vous savez, viens voir les comédiens, voir les magiciens, voilà. Le théâtre, il se déroulait dans les villages. Vraiment, il était itinérant. On en parlait tout à l'heure dans un album de Lucky Luke.
Le Cavalier Blanc.
Le Cavalier Blanc, exactement.
Ça existait aussi dans le Far West.
Voilà, on voit Lucky Luke qui suit comme ça une équipe de théâtre itinérant. Et c'était les dramatiques, quoi. Alors, les dramatiques, c'est quoi? Il y a souvent une jeune fille un peu naïve, un peu sincère, etc., qui est attaqué toujours par un vilain méchant, vraiment la figure du méchant, etc. Et donc, ils sont repartis de ça. Ils ont créé la famille Stutman, qui est une famille de forains qui propose une pièce. Et donc, c'est une réécriture de ces dramatiques. Alors, l'histoire, c'est quoi? C'est Véro. Véro, elle est sympa. Véro, elle est morale. Véro, elle est un petit peu naïve, etc. Véro, elle est pauvre avec son mari. On est chez Dickens, on est chez Les Misérables et tout ça. Ils habitent un petit appartement sordide. Ils ont le gamin qu'ils viennent d'avoir. Elle n'arrive pas à le nourrir et tout. Nanana. Elle, son rêve, c'est d'avoir un Franprix. D'avoir son Franprix à elle.
Sa petite supérette qu'elle dirige.
Voilà, exactement. Et lui, il vient de trouver du boulot. Donc ça y est, la vie s'ouvre. Elle va pouvoir accomplir son rêve, etc. Manque de bol. Il traverse la rue et il se fait taper par une voiture. Et ça, c'est toute la vie de Véro, c'est-à-dire qu'il va lui arriver que des galères, mais elle va finir reine d'Angleterre. Donc c'est...
Parce que Véronique, ça vient d'un mot grec qui signifie la vraie victoire, donc en définitive, voilà.
Voilà, en définitive. Non, non, franchement, c'est un spectacle très, très loufoque. C'est un vrai plaisir. Si on a envie de se changer les idées, d'être en plein air, d'assister à un théâtre où on se marre et en même temps où il y a une vraie qualité d'écriture, 26 000 couverts, Véro, première d'Angleterre.
D'autant plus que cette année, oui, vous proposez énormément plus qu'à l'accoutumée, des spectacles en plein air par rapport aux contraintes du Covid.
Ouais,
c'est quand même plus pratique. Et votre programmation s'y prête avec toutes ces compagnies d'art de rue qui ont l'habitude de ce genre de situation. Et puisqu'on parlait, nous, on considère le théâtre plutôt comme un phénomène urbain, mais on a tort, puisqu'effectivement, il allait de village en village dans l'ancien temps. À l'époque de Shakespeare ou à l'époque
de Molière,
siècle,
même.
Et vous, ouais, tout à fait. Et bah, tiens, puisqu'on était à la campagne, on va y rester avec certains spectacles qui parlent justement de ce thème que à la télévision on parle de ruralité. Le terme est assez laid, mais effectivement, il y a aussi des initiatives comme ça dans ces milieux, et notamment bah, avec le spectacle, un petit spectacle un petit peu insolite d'ailleurs, qui s'appelle Macadam Vache.
Macadam Vaché, ouais, tout à fait. Alors ça, est-ce que c'est vraiment un spectacle ? C'est d'abord une rencontre. Macadam Vaché, c'est monsieur Robert qui était dans un hôtel de luxe. Il était maître d'hôtel. Et du jour au lendemain, on connaît pas vraiment son histoire. Il a tout quitté et il se promène avec Ola, qui est une vache nantaise. Et donc là, ils arrivent sur Avignon, ils arrivent sur Villeneuve. La dernière fois qu'on les a vus, je crois que c'était vers Tavel. Donc là, dans 1-2 jours, ils seront sur Avignon et ils se promènent. Et il se balade, il a tout largué, il se promène avec sa vache. Donc l'idée, c'est quoi ? Ben, c'est d'interpeller notre quotidien et de venir y créer une rupture poétique. Il n'y a rien d'autre que ça, que Monsieur Robert qui se promène avec sa vache. Alors évidemment, il va rencontrer des gens. L'idée, c'est de créer la rencontre. Et dans cette rencontre, il va proposer un rendez-vous qui est l'heure de la traite, où ce jour-là, il va véritablement raconter son histoire, pourquoi il se promène avec sa vache et pourquoi il vient sur Avignon, Macadam Vaché.
D'accord, donc si vous avez envie de caresser un de ces paisibles animaux, ce sera sur une place du centre-ville de Villeneuve. Et un autre spectacle, toujours sur le même thème, c'est le spectacle France Profonde, un terme un petit peu parfois dédaigneux quand il est utilisé par certaines personnes. Là, ce n'est pas du tout le propos, puisque ça parle de la permaculture et des joyeux utopistes qui s'y investissent, non seulement qui s'y investissent, mais qui y réussissent.
Alors, ça parle de, effectivement, du monde agricole.
La compagnie La Grosse Solution.
Voilà. La Grosse Situation, oui. Spectacle France Profonde. Alors là aussi, c'est un spectacle qui est très très intelligent. Ce sont des jeunes femmes qui ont pour créer ce spectacle-là, qui ont été dans un temps de résidence dans des lycées agricoles. Elles-mêmes, elles viennent plutôt dans leur famille, mais comme souvent nous tous, hein, de familles de paysans, de familles rurales, etc. Les arrière-grands-parents, etc. Tout le monde a eu à un moment donné un lopin de terre et tout. Bref. Et de ce spectacle, elles ont tiré en fait une véritable galerie de portraits sur qu'est-ce que c'est le monde paysan aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de parcourir en fait toutes les influences du modèle agricole aujourd'hui. Comment on passe d'un modèle dit, en tout cas, productiviste, etc., à quelque chose de plus local ou de plus bio, etc. C'est assez fantasmatique dans le sens où faut les voir, elles ont des grandes perruques d'indiens, elles se transforment assez communément, assez souvent, etc., pour passer d'un personnage à l'autre. Et voilà, on va découvrir qu'est-ce que c'est que l'ostréiculture, qu'est-ce que c'est que d'avoir des vergers aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'une tomate flétrie, pas jolie, mais qui a bon goût, qu'est-ce que c'est qu'être un céréalier aujourd'hui, etc., etc., avec aussi une véritable écriture théâtrale, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une composition. Il y a toute une scénographie qui, au fur et à mesure du spectacle, va se mettre en place. Je ne sais pas si vos auditeurs se rappellent, mais il y a au mois de février, donc il y avait une grande émission, une grande soirée sur une chaîne de mission de service public qui s'appelait Nous tous paysans, oui. Qui a fait beaucoup parler parce qu'elle a amené un projecteur assez positif du monde rural. Et c'est un peu le projet de ce spectacle. C'est vraiment le propos de ce spectacle.
Ça fait écho à cette émission.
Voilà, complètement. C'est une belle réussite d'écriture, en tout cas, et qui vient axer d'une manière différente qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui le monde agricole.
Une initiative à laquelle réfléchir, puisque dans la plaine de l'Abbaye, il y a mieux à faire qu'un terrain de golf. Hein, la permaculture, ça pourrait...
Alors,
ça
c'est pourrait... au milieu... Alors, on ne peut pas mieux dire, parce que nous, on est au milieu des champs de salade, etc. Enfin, le spectacle, il se développe en pleine verdure. Voilà, on est vraiment on est juste dans le propos.
Voilà. Et vous êtes intarissable sur cette programmation. On sent votre passion. Ça fait vraiment plaisir à entendre. Mais on va passer très rapidement sur les autres spectacles. Je m'en excuse. Puisqu'il y a dans le détail une enquête policière, le kiosque avec une compagnie qui nous propose de revisiter les grands standards de la musique. Il y a aussi des spectacles vraiment, vraiment intrigants comme Bête de foire, comme Il faut de tout pour faire un monde qui est un voyage temporel. La machine qui est un spectacle de danse contemporaine qui inclut des éléments de jeux vidéo, des vieilles bornes d'arcade. Ouais, et il y en a un que j'oublie, j'en suis désolé, dans la quinzaine de spectacles qu'on pourra voir durant cette programmation du Festival Villeneuve-en-Seine jusqu'au 21 juillet. Alors, autour du Festival de Villeneuve-en-Seine, à proprement parler, il y a quelques autres petites choses aussi à découvrir, notamment des cours de yoga et ou de réflexologie, enfin des séances de réflexologie.
Ouais, en fait, ça fait partie des petits plus. Nous, l'idée, comme vous l'avez compris, de cet endroit qui est Villeneuve-en-Seine, c'est d'être à la cool, excusez-moi l'expression, mais on est dans un univers un petit peu forain, je le redis, c'est le jardin du Festival d'Avignon. Par rapport à la Furia d'Avignon, nous, on propose le temps de pause, en fait. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, si vous passez à Villeneuve, sur le site du festival, y a des gens, le matin, ils font leur yoga, on a des gens qui ont des chevaux, ils traversent le site, c'est aussi un lieu de vie et de passage.
Et de quiétude,
de fait. Et de quiétude, exactement. Et donc, du coup, on a eu l'idée d'inviter des dames qui font des massages des pieds pendant les spectacles, etc. On a une fripe nomade, une fripe itinérante, on a le beau
quand bar. On en a marre de faire les soldes, voilà.
Voilà, exactement, si on n'a pas envie d'aller à H&M, on vient à Villeneuve-en-Seine. On a le beau bar, qui est notre espace de convivialité. Alors, c'est vrai que l'idée, c'est qu'on propose une expérience de spectateur. On a beaucoup réfléchi à cette question-là, c'est-à-dire, quelle est l'expérience de spectateur complémentaire qu'on peut trouver au Festival d'Avignon et à l'expérience du Festival d'Avignon.
Et le beau bar, justement, alors un subtil jeu de mots que pour ma part j'aime bien, un bar auquel où on pourra retrouver une soirée guinguette pour la clôture du festival le 21 juillet, où il y aura des musiciens, donc on pourra boire un verre sous les feuillages des arbres qui nous feront un peu d'ombre, mais pour la lune ce coup-ci. Voilà, chers amis, merci Brice d'être venu nous parler la programmation de
merci
ce festival insolite.
Ouais.
Et puis on espère que ça se passera bien pour cette édition, on espère vous retrouver en 2022. Voilà, c'est dans la plaine de l'Abeille à Villeneuve-les-Avignons, Villeneuve-en-Seine du 9 au 21 juillet, ligne 5, vélo pop ou allez-y en stop à pied, mais allez-y.
Et si tu prends le bus, t'as tarif réduit, donc avec ton ticket de bus, donc tu vois,
voilà, par exemple. Profitons-en.
Allez, salut.
Salut.
Ciao.